Ça dépense beaucoup d'énergie, donc il faut se poser la question, est-ce que cette dépense d'énergie apporte quelque chose qui vaut la peine par rapport à cette dépense d'énergie? Et alors là, la question est de savoir, c'est que cette dépense d'énergie va t'apporter une monnaie qui va résister à la censure. Et alors la question, c'est est-ce que tu veux une monnaie qui résiste à la censure, oui ou non? Ça, c'est la bonne question.
Le cours du Bitcoin monte et descend. Mais qu'est-ce qui justifie sa valeur? Qu'est-ce que le Bitcoin? Parlons Bitcoin, brisons le mythe, pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel, et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti. Bienvenue sur Parlons Bitcoin, dans cet épisode avec Patrice, un auditeur du podcast que j'ai rencontré lorsque j'ai récolté du feedback sur le podcast. Je te partage cet échange parce que j'ai beaucoup apprécié l'explication de Bitcoin de Patrice. Il explique Bitcoin avec 4 ingrédients qui sont la blockchain, la preuve de travail, le fait que ce soit un livre de compte et le fait que le temps soit au cœur du système. Après nous avoir présenté ce qu'est Bitcoin, la deuxième moitié de l'épisode se transforme en discussion philosophique sur ce qu'est une bonne monnaie. Un échange fort intéressant où Patrice avance ses idées et moi les miennes dans un esprit constructif. Si tu veux partager tes commentaires et réflexions sur l'épisode, rejoins le groupe Telegram dont le lien est dans la description. J'espère que cet épisode te plaira, je te souhaite une belle écoute et une belle découverte. Vis sur nous.
Alors, merci de me rencontrer déjà, c'est gentil de prendre ce temps.
Merci pour ton podcast, ça c'était l'occasion de te le dire de visu comme ça.
Oui, mais ça me fait plaisir. j'espère que ça a aidé les gens, j'y ai mis beaucoup d'amour.
Ça se sent.
Alors peut-être ma première question, ce serait, quel est ton background professionnel, qui es-tu un petit peu, comme ça je sais qui écoute le podcast.
Oui, donc en fait, moi, donc je suis un informaticien. Enfin, d'abord, je suis, je dirais, de formation scientifique. Donc, je suis physicien. Je viens effectivement de Belgique. J'y a toujours eu un intérêt pour l'informatique. Et finalement, après mes études de physique, j'en ai fait mon métier. Donc, ça fait, je sais pas moi, plus de 20 ans maintenant que je suis informaticien en entreprise, commencé comme software engineer, et maintenant ça fait plusieurs années que je suis architecte. Et pour, je dirais, les 6-7 dernières années, quelque chose comme ça, je suis maintenant dans le milieu bancaire et je travaille dans tout ce qui a trait ce qu'on appelle les API. Il y a eu la directive PSD2 et des choses comme ça. Donc je dirais clairement, il y a un terreau au niveau technique. L'autre chose aussi, hein, de pourquoi je suis venu au Bitcoin. Donc le Bitcoin, j'en ai entendu parler très 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 tôt. Malheureusement, ça je peux le dire que maintenant, je ne m'y suis pas intéressé très très tôt, parce qu'en fait, j'avais capté. Enfin, il y avait deux choses. Donc j'avais capté l'aspect de la chaîne de blocs, le hash du bloc précédent. Ça c'était vraiment quelque chose dont j'ai simplement entendu parler et que j'avais capté assez vite. Par contre, le truc que j'ai complètement loupé et que je n'ai approfondi que plus récemment, c'était toute la partie proof of work qui rend finalement, et c'est pour moi la propriété la plus importante, donc la résistance à la censure, qui est vraiment quelque chose de tout à fait unique qu'on ne retrouve dans aucun autre système. Mais donc, à ce niveau-là, c'était... Par contre, j'avais toujours bien aimé le Bitcoin, dans le sens où et les cryptocurrencies en règle générale, comme exemple, parce que je m'étais intéressé en parallèle, pas tellement du niveau technique, mais au problème de l'argent. Je veux dire, le fait de travailler dans une banque était l'occasion un peu de m'intéresser à l'argent, et notamment à la création monétaire, qui est quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on n'apprend pas. D'autant plus... Il y avait un intérêt en tant que physicien. Quand tu regardes un système en tant que physicien, tu regardes quelle est la variante, quelle est la quantité qui reste la même et qui s'échange. Hein. L'exemple classique du physicien, c'est cette énergie qui est constante et on ne fait qu'une seule chose, c'est de se l'échanger. Et en parallèle, je m'étais toujours demandé, cet argent qu'on s'échange, est-ce que c'est un invariant aussi? Et en fait, tu te rends compte que non, ce n'est pas un invariant. L'argent est quelque chose qu'on crée ex nihilo. Et c'est quelque chose qui est pas du tout enseigné. Et en fait, l'argent aussi, c'est quelque chose dont on en fait un design et qui est plus ou moins réfléchi et qui est parfois simplement un design qui vient aussi de l'histoire. Et donc, le Bitcoin était un truc qui était génial dans le sens où c'était d'expliquer aux gens que l'argent n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est créé. Et le meilleur exemple, c'est regarder, on en a créé un autre. Et aussi, ce que j'essaie aussi toujours d'expliquer, c'est que un argent tel que le Bitcoin n'est pas plus virtuel qu'une monnaie comme l'euro ou le dollar. C'est vraiment un outil qui est créé de toutes pièces, qui répond à certaines règles, etc. Et puis, récemment, j'ai vraiment fait le lien entre les deux, où je sais plus pourquoi. Et en fait, c'est marrant parce que je prends beaucoup de notes. Et donc, je peux te dire que le mardi 20 juillet 2021, je me suis finalement décidé à prendre ce fameux white paper et à le lire. C'est là où j'ai découvert la preuve de travail. Et ce qui m'a vraiment, enfin, la partie découverte, ça a été comment dire, l'origine de la preuve de travail, comme cette idée de l'utiliser pour éviter les spams, donc cette idée qui a été proposée, qui a été reprise dans le document de Satoshi et qui en fait était génial, mais qu'on n'a jamais implémenté. Ah, je ne sais pas si tu vois, mais c'est le même principe. Donc aujourd'hui, envoyer un email ne coûte rien. Et donc, tu peux avoir tes spammers qui t'envoient des millions d'emails. L'idée ici, c'est exactement la même chose que ce qui est fait dans Bitcoin. Donc, c'est que dans ton mail, tu vas avoir tu vas faire un hash de ton mail qui va te donner une certaine valeur et tu vas de nouveau dire, ben voilà, il faudrait que ton mail fasse un hash qui commence par 3 0, 5 0, 6 0. Et pour ça, ben, tu n'as qu'à changer un petit texte à la fin de ton email. Et tu fais donc c'est le truc avec le n-once où tu l'incrémentes, tu calcules à chaque fois le hash. Et puis quand c'est bon, ben, tu peux envoyer ton email. Et ça ne coûte rien de le vérifier. Par contre, ça t'a coûté un petit peu de temps pour l'envoyer. Et comme un spam, c'est envoyer des mails à des adresses différentes, ben, il faut chaque fois recalculer ça et donc c'est impossible de faire du spam.
Est-ce que dans cette idée, cette protection anti-spam impliquerait que toute la structure des emails était modifiée pour intégrer ça? Est-ce qu'il fallait
Non.
que... Non?
Non, non, en fait, le seul truc, c'est que il faut un consensus dans le sens où il faut que tout le monde se dise, je ne lis pas un spam, je
Ah,
ne
ok.
lis pas un email si je ne peux pas vérifier ce truc. Mais sinon, la structure, je dirais, technique d'un email est remplie de headers dont certains sont standards et d'autres sont tout à fait libres. Donc, tu commences par un libre ou tu peux même en faire un header standard et tu peux le proposer à l'IETF qui règle tout ça. Donc, c'est super facile à mettre en œuvre. Au niveau du calcul, au moment où tu l'envoies et la vérification quand tu le reçois, c'est aussi super facile. Il faut juste que tout le monde le fasse en même temps. Et c'est toujours ça le problème de ce genre de technique, c'est comment faire le bootstrap au tout début.
Ouais. Et si je résumais un peu cette idée, ce serait que au lieu que l'email soit quelque chose de digital qui n'a aucune valeur, à ce moment-là, il y aurait eu une dépense d'énergie avant l'émission
Exactement.
qui ferait que, un peu comme pour faire une lettre, il faut dépenser l'énergie pour aller chercher l'arbre, l'abattre, faire la lettre. Là, il y aurait une espèce de création de l'email qui serait un peu coûteuse, qui ferait qu'on s'échangerait des emails chargés d'énergie, investie, et donc on aurait moins ces emails gratuits, quoi. Il y aurait une pondération sur ce qu'est un email en tant que tel, ce qui aurait permis d'éviter, enfin, ce qui permettrait même aujourd'hui d'éviter les
Ah oui,
spams.
c'est encore super facilement implémentable aujourd'hui. Et c'est vraiment le problème du spam, c'est que ça ne coûte absolument rien d'envoyer un email. Et non seulement ça, il n'y a pas cet effet d'échelle. C'est-à-dire que comme c'est vraiment zéro, 1 million de fois zéro, ben c'est toujours zéro. qu'ici, la technique, on n'arriverait pas aux extrêmes qu'on a aujourd'hui dans Bitcoin, c'est-à-dire que ça ne coûterait vraiment rien du tout. Il faudrait effectivement une difficulté qui monte en puissance aussi avec les machines qui deviennent de plus en plus puissantes, mais on réglerait cette difficulté au fait que pour envoyer un email, il faut que ton ordinateur travaille 100 millisecondes ou 150 millisecondes, donc un truc qui est, d'un point de vue d'utilisateur, que tu ne vois absolument pas. Mais ces 150 millisecondes fois 1 million commenceraient à coûter aux spammeurs. Et finalement, et c'est ça aussi qui est absolument, je trouve, génial dans le Bitcoin, donc cette idée d'utiliser le proof of work, comme tu dis, de cette manière pour stocker de l'énergie, je ne sais pas très bien, mais prouver qu'il y a eu une énergie qui a été dépensée, donc mettre une certaine dépense sur ton travail. C'est une idée qui existait avant. Et comme le blockchain était quelque chose qui existait avant, et ce qui a été génial dans le Bitcoin, c'est de mettre les deux ensemble, quoi. Et ce que ça donne aujourd'hui est quelque chose d'unique. Et alors l'autre chose qui est intéressante aussi par rapport à mon background, c'est qu'en tant qu'informaticien, je suis bombardé de blockchain par-ci et de blockchain par-là. Et de voir à quel point, à quel point, d'une part, les gens ne comprennent pas ce qu'est une blockchain, ce qu'est Bitcoin, quelle est la différence, à partir de quand c'est intéressant, à partir de quand c'est pas intéressant. Et puis aussi tout le débat sur la dépense énergétique du Bitcoin, comment dire, qui est complètement fausse. Y a l'exemple, je dirais, que j'aime bien donner, c'est une IRM, ça coûte cher, une IRM, ça dépense beaucoup d'énergie. Donc c'est très mauvais, donc il ne faut pas le faire. Et c'est ça, cette idée, c'est non, tu ne réfléchis pas comme ça, tu te dis une IRM dépense de l'énergie, d'accord, et qu'est-ce que ça m'apporte? Et puis après, tu as une discussion intelligente entre le rapport entre la dépense d'énergie et ce que ça t'apporte. Et c'est pour ça qu'avec le Bitcoin, on a souvent cet argument, ça dépense beaucoup d'énergie, donc c'est pas bon. Non, ça dépense beaucoup d'énergie, donc il faut se poser la question, est-ce que cette dépense d'énergie apporte quelque chose qui vaut la peine par rapport à cette dépense d'énergie? Et alors là, la question est de savoir, c'est que cette dépense d'énergie va t'apporter une monnaie qui va résister à la censure. Et alors la question, c'est est-ce que tu veux une monnaie qui résiste à la censure, oui ou non? Ça, c'est la bonne question. Et je n'ai pas de bonne réponse parce que je suis vraiment partagé. Je ne suis pas sûr que Bitcoin est une bonne monnaie, mais je suis sûr que c'est quelque chose d'intéressant sur lequel il faut se poser les bonnes questions.
Oui, effectivement, effectivement. Ok, c'est intéressant comme introduction, ça pose beaucoup de questions. Tu as dit aussi qu'en tant qu'informaticien, tu étais beaucoup bombardé de blockchain, puis qu'il y avait une différence entre la blockchain et Bitcoin, et que les gens ne comprenaient pas ces différences. Est-ce que tu peux l'expliquer? Je pense que ce serait un peu. Parce que là, j'enregistre, donc je me dis ça pourrait peut-être intéresser les auditeurs de comprendre le point de vue d'un informaticien, physicien, sur ce que c'est une blockchain qui a du sens versus ce qui n'a pas de sens.
Alors, la manière dont j'essaye d'expliquer ça, et mon explication n'est peut-être pas encore tout à fait au point, c'est que donc le blockchain, pour un informaticien, c'est une base de données comme une autre. Donc, c'est un système informatique dans lequel on va pouvoir mettre de l'information. La particularité du blockchain par rapport à d'autres systèmes, c'est cette notion d'immutabilité. Donc, c'est le fait que quand tu écris quelque chose, tu ne peux pas le changer. Donc, tu vas écrire quelque chose, et puis tu vas écrire autre chose, et puis tu vas écrire autre chose, et tu ne peux faire que d'écrire. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement possible. Alors qu'avec une base de données plus traditionnelle, on peut écrire quelque chose, et puis on peut modifier quelque chose, et puis on peut deleter quelque chose. Qui avec une blockchain, ça ne se fait pas. Maintenant, c'est une manière un peu différente de penser, parce qu'on peut avoir cette première impression, oui, mais un espace de stockage dans lequel je ne peux faire que d'écrire et je ne peux rien enlever ou rien modifier, ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, c'est tout aussi intéressant. C'est juste que donc je vais écrire quelque chose et quand ça ne m'intéresse plus, plutôt que de l'enlever, ben je vais écrire autre chose qui explique que ce que j'ai enlevé ça précédemment. Et typiquement, c'est ce que font depuis toujours les comptables. Quand tu as un rapport comptable, on n'efface jamais rien. Et si on fait une erreur, on n'efface pas. On met simplement une correction au-dessus et c'est l'historique de tout qui va te donner la bonne information. Et la blockchain fonctionne comme ça. Maintenant, là où il y a une différence fondamentale avec Bitcoin, c'est que ce système va rendre plus difficile de faire des modifications. Donc, tu ne fais pas des modifications par défaut, mais c'est toujours l'idée que quelqu'un de mal intentionné pourrait toujours faire une modification. Donc, tu vas avoir quelque chose qui est plus auditable, qui suit bien l'ordre chronologique. Donc, ça a un certain intérêt, mais tu ne vas pas pouvoir garantir qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir et changer tout l'historique comme il veut. Et c'est là où ce que le Bitcoin a fait, c'est qu'il a rajouté à l'écriture cette fameuse preuve de travail. Donc, à chaque fois que tu écris, ça te coûte quelque chose. Et plus tu écris, plus tu vas accumuler du coût. Et donc, si tu veux réécrire, tu dois redépenser toute l'énergie qui a été dépensée précédemment pour l'écrire. Et il y a cette espèce de course comme ça où plus tu écris, plus ça va te coûter cher de revenir en arrière. Et au final, tu vas avoir un système où ça ne va plus être possible de revenir en arrière. Et ça, c'est particulier au Bitcoin. Mais ça, c'est un aspect, mais il y a plein d'autres choses. Un truc qu'on n'explique pas assez par rapport au Bitcoin, c'est le fait que dans une base de données traditionnelle, quand tu as quelque chose à écrire, tu l'écris. Et quand tu n'as rien à écrire, tu n'écris rien et il ne se passe rien. La blockchain de Bitcoin, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que tu aies des choses à écrire ou que tu n'aies pas des choses à écrire, il faut faire un bloc suivant, même s'il est vide. Parce qu'il y a cette notion de dynamique. Donc, le Bitcoin est quelque chose d'extrêmement dynamique où il faut toujours écrire, il faut toujours créer un bloc, il faut toujours créer cette nouvelle page, même si elle est vide. Et pourquoi? Parce qu'on veut cette accumulation d'énergie dépensée qui va faire en sorte que ça va être impossible de revenir en arrière et de réécrire l'histoire.
Ok, génial.
Je me suis un peu perdu.
Non, c'est bien. Et si je résume ce que tu as dit, ce serait que la particularité de la blockchain, c'est de ressembler à un livre comptable où on ne fait qu'écrire par-dessus le passé. Donc ça, ce serait la blockchain de manière générale. Et puis, ce qui fait que Bitcoin est spécial dans cet univers blockchain, c'est son caractère immuable. Et donc, il dit que grâce à la dépense d'énergie nécessaire à l'écriture, il devient impossible de réécrire, alors qu'une blockchain qui ne serait pas immuable pourrait être réécrite. Et donc, l'intégrité des données dépend de la confiance qu'on va avoir dans celui qui écrit. Et donc, c'est ça qui distingue Bitcoin des blockchains classiques, c'est qu'il ne peut pas être modifié, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de confiance dans un auditeur central, en quelque sorte.
Ouais. Et c'est là où il y a confusion, c'est-à-dire que le Bitcoin est vraiment un système où tu n'as pas besoin de ce tiers de confiance. Bitcoin contient une blockchain, mais c'est plus qu'une blockchain. Et souvent, on te vend une blockchain qui n'est pas Bitcoin, donc une blockchain qui n'a pas ce système de proof of work, comme étant quelque chose d'immuable et qui te permet d'éviter un tiers de confiance. Et si tu veux, c'est là où pour moi il y a une arnaque, c'est que on part d'un système qui a des qualités, on extrait de ce système qui a des qualités une partie, mais qui le fait de ne prendre qu'un seul des ingrédients de Bitcoin va détruire cette qualité. Et sur ce seul ingrédient, on va y coller, avec un petit peu de marketing, la qualité du système qui contenait plus que cet ingrédient.
Ouais, c'est exactement ça.
Et en plus de ça, au niveau des ingrédients qui font de Bitcoin ce qu'il est, là j'en ai parlé de deux, donc qui sont la blockchain, donc le fait que l'écriture de quelque chose est liée à la page suivante et qu'on a ce système de livres où toutes les pages sont liées les unes aux autres. Il y a ce système de proof of work où la création de chaque page va te coûter une énergie qui va faire en sorte que si tu veux réécrire, tu vas pas y arriver. Et il y a aussi, et ça c'est peut-être un peu plus, je l'ai moins entendu, c'est que si dans le livre, si le livre, c'est pas un livre de compte d'argent, ça marche pas. Et c'est ça aussi qu'on vend beaucoup la blockchain pour un tas de choses. On vend la blockchain pour les élections, on vend la blockchain pour écrire des contrats notariaux, on vend la blockchain pour suivre la traçabilité d'aliments et des choses comme ça. Mais pour moi, une des particularités de Bitcoin, donc un des ingrédients de Bitcoin qui font que Bitcoin fonctionne, c'est aussi que c'est de l'argent. Parce que le problème de la proof of work, c'est que il va falloir ces gens hein, qu'on appelle les mineurs qui vont rechercher ce fameux N1, ce qui correspond à un hash qui est en dessous de la difficulté, blablabla. Mais donc ces gens vont dépenser de l'énergie. Et pourquoi est-ce qu'ils le feraient si ce n'est pour de l'argent? Et ça tombe bien, puisque ce pourquoi on leur demande d'écrire, c'est le livre de compte de l'argent. Entre-temps, il faut aussi réaliser que l'argent, ce qu'on appelle l'argent, c'est jamais qu'un livre de compte. Et ça, c'est aussi tout un autre travail. Et donc, on a vraiment ce trio. Et il y en a même un quatrième dont je peux parler après. Donc, c'est une blockchain où il y a une preuve de travail et c'est une blockchain qui sert à écrire le livre de compte d'une monnaie. Et c'est ces trois ingrédients-là qui font que tu as un système résistant à la censure. Et si tu en enlèves un, c'est plus résistant à la censure.
Ouais. Parce que, si, mettons, si on enlevait l'ingrédient d'argent, ça voudrait dire que les mineurs seraient payés avec une autre forme de monnaie qui ne serait pas Bitcoin, donc pas
Oui, mais il y
résistante à
a...
censure, et donc qui serait censurable. Et donc, le système serait
Oui.
censurable.
Et puis, il n'y en a pas. Je veux dire, encore une fois, quand on a fait le chemin de savoir ce qu'est l'argent, donc à savoir que c'est juste des lignes dans des livres de compte qui sont gérées par les banques centrales et que les banques centrales, quand elles en ressentent le besoin, elles font une transaction où il n'y a rien en input et puis en output, il y a de l'argent. Avec Bitcoin, donc cette fameuse transaction, donc le fameux Coinbase du bloc, il est là, il est super visible, c'est transparent. Donc la création monétaire est vraiment transparente et elle est là. Si on écrivait autre chose que de l'argent dans le Bitcoin, on n'aurait pas d'argent et donc on ne pourrait pas récompenser le mineur, donc ça ne marcherait pas.
Ouais, donc là, pour essayer de bien expliquer à ceux qui écoutent, ce serait que le travail du mineur est payé avec l'unité qui est notée dans la blockchain,
Exactement.
qui est donc du Bitcoin. Et donc, c'est ça la transaction Coinbase, c'est une création des Bitcoins dans un bloc qui sont donnés aux mineurs avec un programme d'émission pré établi qui assure qu'on n'en aura créé que 21 millions d'ici 2140.
Et c'est exactement ça. Alors, on peut parler des 21 millions, mais il y a un dernier ingrédient je dirais, dans l'agencement de Satoshi, dans la création du Bitcoin, qui fait que le Bitcoin fonctionne, c'est de s'être basé de manière géniale sur le temps. Parce que le problème d'une preuve de travail, le problème de devoir faire un travail, c'est qu'avec l'avancement technologique, quand on te demande de faire un certain travail, au cours du temps, tu vas pouvoir trouver des manières plus efficientes de faire ce travail. Et donc, ça va devenir de plus en plus facile de le faire. Et donc, il faut trouver un moyen d'augmenter ce travail. Et c'est ça le cas particulier. Et encore une fois, en tant que physicien, tu vas regarder donc le travail. Je dirais, si je le matérialise par faire quelque chose, ça va pas être un invariant. Si je demande de faire un certain calcul, ce calcul-là va pas être un invariant parce que je vais pouvoir faire ce calcul-là de plus en plus rapidement. Si je lui demande de résoudre un problème, ça va pas le faire parce qu'il va le résoudre de plus en plus rapidement. La seule grandeur physique à laquelle on ne peut pas toucher technologiquement, c'est le temps. En tant que ingénieur, tu peux me demander améliore ça, je peux mal l'améliorer. Tu peux me donner n'importe quelle grandeur physique et me demander de trouver une machine qui va l'améliorer, je peux le faire. Si tu me demandes, ouais, ça c'est 10 minutes, fais-moi une machine qui raccourcit ces 10 minutes, ça je peux pas. Et donc, c'est là où, avec son système de difficultés variables, donc il demande à faire un calcul à un ordinateur et il sait pertinemment bien au départ que ça ne va pas être un invariant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mélanger les deux ingrédients. Ça, c'est le calcul que tu dois faire. Et je vais y ajouter une difficulté. Et cette difficulté, je vais la moduler de manière à ce que ce que je te demande de faire va toujours prendre plus ou moins le même nombre de temps. C'est les fameux 10 minutes entre blocs. Et ça, c'est fabuleux aussi comme ingrédient dans le Bitcoin. Donc, non seulement il faut une preuve de travail, mais il faut s'arranger pour que ce travail soit variable, pour qu'il puisse prendre toujours le même temps, malgré les avancements technologiques.
Ouais, c'est ça.
Et avec ces quatre choses-là, tu as ce machin qui est une monnaie résistante à la censure.
Ouais, qui devient un invariant dans le système, parce que le 21 millions d'unités est fixe puisqu'il est propre au système. Et là, je viens avec ma question par rapport à l'invariant. Donc, tu disais que en tant que physicien, c'est intéressant d'utiliser les invariants. Et tu disais que tu ne savais pas trop si Bitcoin, c'était une bonne monnaie ou pas. Là, je me pose la question, est-ce qu'une monnaie qui est un invariant ne permet pas au système physique bâti sur cette monnaie-là de mieux fonctionner? Parce qu'on a une unité de mesure qui est stable dans le temps et dans l'espace après.
Oui. Alors ça, là, on en vient à ma critique du Bitcoin. Si je devais l'inventer aujourd'hui, mais là, et c'est ça qui est super intéressant dans le Bitcoin, donc c'est que là, je viens de parler d'une partie très technologique qui touche aussi au monde de la physique. Donc, on est dans des sciences très dures. Maintenant, il y a l'aspect économique aussi. Et le fait que Bitcoin fait le lien entre les deux, je trouve ça génial. Parce que, et c'est là où je trouve que où les Bitcoiners, comme on les appelle, ont peut-être pas encore raté un train, c'est un peu dur. Mais il y a eu un constat qui a été fait que l'euro et le dollar n'étaient pas top. Ce groupe Satoshi en était bien conscient et ils ont dit on va faire une alternative et ils ont sorti ce Bitcoin qui est une vraie alternative parce que je veux dire c'est complètement différent. Mais je suis pas sûr que ce qu'ils ont fait c'est pas une bonne monnaie. Ou est-ce que c'est une bonne ou pas une bonne monnaie, j'en suis pas sûr. Je suis sûr qu'elle est radicalement différente de la précédente. Et je trouve ça super parce que ça nous montre qu'on peut designer une monnaie. Mais pourquoi s'arrêter au Bitcoin? Pourquoi ne pas reconnaître que le Bitcoin a des défauts et donc réinventer une autre monnaie. Et quand je dis réinventer une autre monnaie que le Bitcoin, ce n'est pas une pâle copie, hein. Il y a toutes ces histoires de shitcoin, etc. C'est les mêmes principes, etc. Ce que je parle, c'est vraiment faire un design tout autre de la monnaie. Alors, et dans le design de la monnaie, il y a ce fameux problème de la... est-ce que c'est quelque chose qu'on crée et on en a de plus en plus, ou est-ce que c'est quelque chose que, oui, qui est 21 millions et on en a pas plus. Et là, je ne suis pas tout à fait convaincu, parce que pour moi, la monnaie, c'est quelque chose qui donc, est utilisé pour s'échanger de la valeur. Et je pense que la valeur qu'on a dans notre monde est quelque chose qui croît. Et peut-être, je dirais, sans limite. Si on met de la valeur à des choses purement matérielles, il y a effectivement une limite, il y a un nombre limité d'eau, il y a un nombre limité d'air. Mais si on parle de création intellectuelle, si on doit, par exemple, faire un échange économique quand on veut acheter un livre, quand on veut récompenser quelqu'un qui écrit un livre, ça, c'est quelque chose qui croît. Et donc, pour pouvoir faire en sorte que quand les gens créent de la valeur, par exemple, par l'écriture d'un livre, si on veut les récompenser, ben, il faut quelque chose qui croit en même temps que ça. Or, si tu as une monnaie qui est basée sur une limite fixe, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne monnaie.
Et pourquoi est-ce que tu penses qu'il faut que ça croit en même temps? Parce que ma question, c'est... On a quelque chose qui croit, mais ce qui est intéressant, c'est échanger la valeur des choses. Donc, ce qui compte, c'est qu'on puisse mesurer la croissance pour en prendre considération au moment de faire l'échange, non ? Si on est capable de mesurer la croissance de la valeur d'un objet en disant, bon, ben, d'une certaine façon, est-ce que ce n'est pas suffisant de simplement pouvoir la mesurer ? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait que les unités croient en même temps que la valeur croît ?
Je veux dire, si tu prends le monde à un temps T0 et tu dis, voilà, ce monde contient autant de valeurs et je veux matérialiser cette valeur par une unité qui est ma monnaie et je vais en découper, voilà, une unité de valeur, c'est autant. Maintenant, dans ce monde-là, je rajoute un livre qui n'existait pas avant. Donc, globalement, ce monde a plus de valeur.
Ouais.
Mais si mon unité ne change pas en même temps, qu'est-ce que je fais ? Je dois réadapter, donc je dois diminuer le prix de tout,
ouais,
pour rééquilibrer les choses. Or, si j'ai une unité où, quand un livre arrive en plus, ben les euros pour l'acheter... Enfin, la monnaie, en plus, arrive en même temps et si possible, en synchronisation. Je pense que c'est plus facile.
Mais il y a un enjeu
de devoir adapter.
Il y a un enjeu qui est quasiment inhumain à régler, qui est cet enjeu de synchronisation, parce que pour mesurer la valeur du livre, il faut que les humains puissent se mettre d'accord sur les échanges nécessaires au livre. Donc, il faut que les humains créent le papier, il faut payer l'auteur. Enfin, il faut se mettre d'accord sur plein, plein, plein de choses qui vont permettre de manière émergente de déterminer la valeur. Fait que si on voulait synchroniser la création monétaire avec la valeur, on tombe sur un problème quasiment insolvable. Par contre, si le prix baisse de manière naturelle, là, l'ajustement de valeur dans le système va se faire tout seul. Donc, si les unités sont fixes, les échanges des individus vont faire baisser le prix des objets sans qu'on ait besoin de répondre à la question synchronisation, parce que ce serait pré-synchronisé en quelque sorte.
Peut-être. Mais je dirais, mais en tout cas, ce qui pour moi est intéressant, c'est de continuer ce genre de discussion et de ne pas se dire la meilleure monnaie, c'est celle qui vient avec un nombre fixe d'unités et puis après ça va décoller. Mais c'est de continuer à se poser la question, créer de la monnaie comme les banques centrales le font aujourd'hui, ce n'est pas top. Bitcoin a une alternative où on la crée jusqu'à cette limite et on est super transparent de la manière dont on la crée. Génial, mais pourquoi pas? Parce qu'il y a un autre, comment dire, il y a un autre aspect aussi dans le design de la monnaie qui n'est pas du tout pris en compte par cette communauté Bitcoin, au niveau du Bitcoin, c'est que si moi tu devais me demander à partir d'une page blanche quelle serait la meilleure monnaie, d'abord la première chose que je dirais c'est que ce serait sympa de ne pas en avoir du tout, c'est-à-dire qu'on puisse faire des échanges sans qu'il y ait besoin de stocker cette valeur sous forme de monnaie. Donc, pas arriver à une synchronisation parfaite, mais arriver à ce que il n'y ait pas besoin de cette rétribution. Et après, s'il en faut une, moi, je suis assez, j'aime bien le concept de la monnaie qui rouille, c'est-à-dire du truc qui expire. Parce que pour l'instant, la monnaie sert à deux choses, que ce soit, ça sert à faire des échanges de valeur, mais ça sert aussi à faire du stockage de valeur. Et ça, je trouve qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on doit vraiment stocker de la valeur? À quoi ça sert de stocker de la valeur? Ce qui est important, c'est que au moment où je vis, je puisse avoir cet échange où moi, je vais produire quelque chose, quelqu'un d'autre va produire autre chose, et malheureusement, on ne peut pas avoir cette synchronisation parfaite du troc. Donc, c'est bien d'avoir une monnaie, mais à des échelles, je ne sais pas moi, de la semaine, du mois, ou des choses comme ça. Pouvoir stocker de la valeur à l'échelle d'une année, à l'échelle d'une génération, cette notion d'héritage où les parents donnent à leurs enfants, c'est la porte ouverte aux inégalités, et je trouve qu'une bonne monnaie serait peut-être une monnaie où tu peux l'utiliser à des échelles de temps de l'ordre d'une... Alors, je ne sais pas si c'est une vie, si c'est une semaine ou quoi. Encore une fois, c'est des choses qu'il faudrait essayer et adapter. Mais je ne suis pas nécessairement pour le stockage de valeur à longue échelle. Et ça, c'est des questions qu'on ne se pose pas.
Mais je pense qu'elles sont posées, ou plutôt implicitement répondues par les bitcoiners, dans le sens où ils disent il faut du stockage de valeur à une échelle de temps quasiment infinie pour pouvoir penser au futur. Enfin, plus la valeur est stockée dans le temps, plus on peut se baser dessus pour bâtir.
Mais pourquoi ? Encore une fois, c'est pas une loi naturelle, ça. Hein ?
Comment ça ?
Devoir stocker de la valeur. Pourquoi ?
Mais c'est parce que si je veux, par exemple, construire une maison, il va falloir que j'accumule les ressources matérielles pour la construire. Il va falloir que j'ai les arbres, les pierres, les outils. Il va falloir que j'assemble, avant de passer à l'étape de construction, les matériaux. Il va falloir que j'accumule de la valeur non utile en tant que telle, parce que ce serait des morceaux de bois et des morceaux de pierre. Mais j'ai besoin de cette phase d'accumulation préalable à la création. J'ai l'impression.
Pour une maison.
Pour une maison, de manière générale, pour...
Donc, l'échelle de temps pour construire une maison, c'est...
Ça pourrait être quelques semaines, quelques mois. Mais si on veut construire des infrastructures qui sont de très grande échelle, par exemple, je ne sais pas moi, des vaisseaux spatiaux, ça nous prendrait peut-être des chantiers qui seraient étalés sur 50 ans, par exemple. Si on a des visions galactiques pour l'espèce, on a peut-être besoin de faire des chantiers qui seraient même sur 100 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire comme vaisseau spatial, mais peut-être qu'on aura besoin de faire une accumulation de richesses pour des projets qu'on ne peut pas envisager encore aujourd'hui, plus loin que les maisons.
C'est marrant de faire ce lien entre accumulation de richesses. Pourquoi est-ce qu'il faut être riche pour construire quelque chose de grand?
Parce que...
Pourquoi les gens ne pourraient pas le faire de manière collaborative?
Ils peuvent collaborer, mais collaborativement, ils auront des richesses. Si on veut construire un chantier pour un vaisseau spatial, il va falloir qu'on accumule les ressources pour le construire, qui sont de la richesse. Si on a des tonnes de matériaux ultra légers qu'on a mis dans un hangar pour faire le vaisseau, Ben ça, c'est de la richesse accumulée. Et que si on n'accumule
Oui,
pas, on ne peut pas construire plus que des maisons.
mais y a ce lien avec la monnaie qu'on peut repenser. Pourquoi est-ce que dans tout ce processus, il y a autant besoin de monnaie et pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'autant de monnaie à une échelle de temps aussi grande? Moi, je pense que c'est des choses qu'on peut repenser.
Ah, c'est sûr qu'on peut repenser, mais si je devrais dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de monnaie pour des échelles de temps aussi grandes, je pense que c'est parce que si on veut construire des infrastructures pour, mettons, héberger plus d'humains sur la planète, donc qu'on puisse vivre peut-être à 10 milliards dans des conditions meilleures pour tout le monde, on a besoin de ces accumulations de matériel, peut-être à grande échelle, qui demandent à ce qu'on ait une monnaie forte qui permettra de donner confiance aux gens dans ces projets qui se durent sur plus longtemps parce qu'ils savent que leur valeur est préservée dans la monnaie, donc ils ont confiance dans l'investissement, peut-être dans ces matériaux-là, dans ces chantiers-là. C'est comme si la monnaie qui préserve la valeur permet le passage à des infrastructures de plus grande échelle. Que si on l'a pas, il faut se coordonner quasiment magiquement. Ou se faire confiance quasiment magiquement. Parce que ça prendrait que les humains fassent des énormes chantiers sans un médium de communication, quoi. Ce serait pas simple, j'ai l'impression. Mais
Je
c'est.
dis pas que ce serait simple, mais l'idée, c'est que dans les degrés d'impossibilité, je dirais il y a une impossibilité par rapport à des lois de la nature et il y a parfois des impossibilités par rapport à des lois qu'on a construites de toutes pièces et qu'on se rend compte que finalement, c'est des constructions de toutes pièces et qu'on oublie qu'on peut changer. Parce que je dirais dans la manière dont on conçoit la société, je dirais la notion même de travail est quelque chose sur laquelle on ne réfléchit pas assez. Je veux dire, est-ce que c'est normal d'aller travailler pour pouvoir vivre? Et là, on peut faire le lien avec ce revenu universel de base. Mais si, quand on a compris que l'argent est quelque chose qui est créé, par soit des institutions, soit par des algorithmes dans le genre de Bitcoin, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un système en place où, de base, tout le monde a ce nombre de jetons qui va lui permettre de faire des échanges au niveau de ses besoins de base et de manière importante aussi, justement, que ces jetons d'échange ne soient pas quelque chose que l'on puisse accumuler, mais que ce soit quelque chose qui. Il faut, hein, on parle d'économie circulaire. Je veux dire, à partir du moment où tu trouves un cercle où, je dirais, chaque point du cercle rencontre les besoins de l'autre et où tu fais le tour, l'argent n'aura été qu'un outil et il n'a pas besoin d'être accumulé. Je sais pas si tu connais l'histoire
Ouais, mais
du
ouais.
un truc que j'ai bien aimé, c'est cette histoire où t'as ce village où tu as un hôtel, une boulangerie et une boucherie. Économiquement, c'est complètement à l'arrêt parce que l'hôtel a une dette de 1000 par rapport au boucher, le boucher a une dette de 1000 par rapport au boulanger et le boulanger a une dette de 1000 par rapport à l'hôtel. Donc tu vois, tout le monde a moins 1000 sur son compte en banque et il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a un touriste qui arrive, qui va à l'hôtel et qui dit. Type de l'hôtel, je voudrais une chambre, mais je ne suis pas sûr si je veux la prendre ou pas. Et il dit, écoutez, pas de problème, vous me laissez 1000, vous visitez la chambre, si vous l'aimez, vous la prenez et ça vous coûte 1000, et si vous ne la prenez pas, ben, moi je vous rends votre 1000 et puis c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Le voyageur donne ses fameux 1000 à l'hôtel. et il va voir la chambre. Pendant ce temps-là, le type de l'hôtel, il va régler son ardoise au boulanger, puisqu'il lui donne 1000. Et donc, il va avoir un solde de dette de zéro. Le boulanger, avec les 1000 qu'on vient de lui donner, il va régler sa dette au niveau du boucher. Et il va de nouveau avoir une dette de zéro. Et le boucher va revenir vers l'hôtel et il va régler sa dette et il va avoir une dette de zéro. Tout le village, plus de dette. Le voyageur redescend et dit, vous savez, la chambre, ça ne m'intéresse pas. L'hôtel, il dit pas de problème et il rend le billet de 1000. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ce village, plus personne ne parlait ensemble parce qu'ils avaient tous une dette de 1000 les uns entre les autres, mais ils ne la voyaient pas. Enfin, ils ne voyaient pas le cercle. L'étranger est venu, il a donné le billet, il l'a repris, donc il a pas donné d'argent, il n'a pas injecté quoi que ce soit, et tout s'est rétabli. Et j'ai pas encore, je dirais, compris toutes les conséquences de cette petite histoire, mais en tout cas, ça montre bien que cet argent et le fait qu'on l'accumule, qu'on garde des dettes, etc. Il y a un truc qui est finalement pas bon dans ça. Et ça mérite réflexion.
Est-ce que pour pimenter l'expérience de pensée, si on faisait cette expérience de pensée en Bitcoin, si on fait cette expérience de pensée en Bitcoin et qu'il y en a, mettons, 3000, que quelqu'un a une dette, ça veut dire que l'autre personne a les bitcoins. Donc avec du bitcoin, si tout le monde a une dette de 1000, ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a 1000 dans le système. Non ? On pourrait pas avoir... Si on était sur du bitcoin qu'on peut pas créer, donc, l'argent devrait être quelque part parmi les trois. Et donc on aurait plus problème de boucle de 1000, j'ai l'impression.
À partir du moment où tu crées je vais m'arrêter là parce que on pourrait en reparler et reprendre des exemples. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'on ne pense pas assez à. On va trop vite quand on parle d'argent. Mm-hmm. Et on ne pense pas assez à ce que c'est vraiment et au côté. Pervers et au fait qu'on pourrait designer l'argent différemment pour que ça marche mieux, en fait. Et encore une fois, par rapport au Bitcoin, je trouve que ce serait une erreur de dire le truc était mauvais, maintenant on a quelque chose de nouveau, et d'avoir le fait que ce soit nouveau et que ce soit mieux fait que ce soit la solution ultime. Non, je pense que le plus bel apport du Bitcoin, c'est de dire cet argent où vous croyez avant que c'était une loi naturelle, non, c'est un truc qui a été designé et on peut le designer autrement. Et peut-être plus à l'avantage de la société. Parce que le problème du Bitcoin par rapport à justement ces effets pervers de l'accumulation qui engendre ces différences, et en plus on est dans une société où cette accumulation peut aller sur des générations. Je pense qu'il n'attaque pas ce problème-là.
Et si la découverte de Bitcoin n'était pas une découverte d'une loi naturelle physique et digitale en même temps,
qui expliquerait... C'est pas une loi naturelle, c'est juste une autre machine.
Mais ça dépend, parce que ça pourrait être une espèce de technologie, une espèce de loi naturelle qui lirait la thermodynamique, l'informatique et la psychologie humaine. Parce que elle vient se construire sur la base de nos incitatifs qui font partie de notre biologie. Et donc, ce serait peut-être un peu la symbiose de plusieurs phénomènes naturels qui, ensemble, émergent sous cette forme-là qu'on a réussi à capturer dans un système intelligible par les humains. Mais éventuellement, ça pourrait être un système naturel.
Je pense que la relation qu'on a à ce qu'on appelle la valeur aujourd'hui n'est pas nécessairement une loi naturelle, et que c'est des choses qu'on peut penser et revoir autrement. C'est vrai que les Les économistes ont cette tendance à modéliser l'humain comme quelqu'un qui veut, comment dire, assouvir ses besoins de manière, même certains le disent parfois, rationnelle, donc de manière la plus efficiente, etc. Je suis pas sûr que ce soit un bon modèle de l'humanité.
Ok, alors l'avenir nous dira ce qu'il en est.
Ah oui, ça
On verra
c'est.
si on est capable de penser d'autres formes d'argent, parce que l'argent doit quand même répondre à certains critères pour être utilisable. Donc il faut que les gens aient du désir pour l'argent. Donc il faut qu'ils puissent préserver une forme de valeur, parce que sinon, la personne utiliserait de manière volontaire quelque chose qui se dégrade en valeur. Fait que là, il faut qu'elle soit prête. Ah, ce serait comme l'équivalent de dire je fais don de ma valeur, quoi. Il faut que la personne soit prête à faire don de sa valeur. Mais cela dit, elle pourrait le faire avec un système Bitcoin aussi. Si l'argent perd de sa valeur, ce serait comme si en Bitcoin on disait, enfin, c'est comme si de manière volontaire avec Bitcoin les gens donnaient une partie de leurs ressources.
Où, moi, ce que je vois, c'est que au niveau du Bitcoin, donc il y a cette problématique de la double dépense dans un système complètement hostile. On pensait que ce n'était pas possible et Bitcoin a montré que c'était possible. Donc, je pense qu'on pourrait avoir une autre machine qui ne serait pas Bitcoin, mais qui serait autre chose, où on garderait certains éléments de design, mais il y aurait ce truc en plus, qui est que il y a une destruction. Parce que c'est finalement ça qui manque dans beaucoup de systèmes monétaires, je trouve, c'est qu'on parle beaucoup de création et on a inventé le mining, etc., mais on ne parle pas de destruction. Quand je prenais l'exemple du livre qui arrive dans ce monde et qui nécessite d'avoir plus d'unités d'échange si on veut garder l'unité d'échange avec la même valeur, il peut y avoir des moments où ça diminue et donc où il faut détruire cet argent. Et ça, il y a peu de systèmes monétaires qui incluent cette destruction de l'argent. On a des exemples, hein, on a des points dans les magasins, j'ai des miles Thalys, etc. Ça, c'est de l'argent et c'est de l'argent qui est détruit. Il y a un time-out sur cet argent. Et je trouve ça pas mal.
Et est-ce que l'utilité de cet argent détruit, ce serait pour prendre en considération que la valeur peut être détruite? Quelle serait la...
Oui, peut-être qu'à un moment donné, je dirais, on pourrait reconnaître que au temps T plus 1 par rapport au temps T 0, il faut diminuer cette. Alors, c'est pas très clair, mais c'est quand même marrant. Je veux dire, on pense à un système où on crée des choses. Et on en crée de plus en plus. Bon, là, avec le Bitcoin, on a en plus cette notion, il y a une limite. Mais pourquoi pas avoir un système où on crée et on détruit, peut-être pour garder le même nombre, je sais pas. Mais il y a des choses à créer.
Et juste pour être certain de comprendre, l'utilité de la création ou de la destruction qui serait monétaire, ce serait pour aligner la valeur au prix à une unité de monnaie. Ce serait pour que chaque unité de valeur dans le temps corresponde à la même
Oui,
unité de monnaie.
alors, c'est pas nécessairement la valeur, mais c'est la relation qu'on met entre la valeur et l'argent. Imagine qu'à un moment donné, on ait cette capacité à dire, ce truc-là, ça a toujours de la valeur, hein, mais on va plus l'échanger comme en système monétaire. C'est-à-dire qu'on va trouver un truc où, je vais pouvoir, avant, je te vendais un truc, et maintenant je peux te le donner. Donc ces euros, ces dollars, etc., dont on avait besoin avant pour fonctionner, ben comme maintenant on est arrivé à ce système où on peut se le donner et on n'a plus besoin de se le payer, ben voilà. Un bon exemple, c'est l'automatisation technologique. Avant, il y avait un travail, ben, il fallait qu'un homme passe 3 heures de son temps à faire ce travail. Donc, il fallait quand même bien le. On voulait le rémunérer. Si on est dans un monde où ce travail-là n'existe plus parce qu'il a été automatisé, il est par des machines et on a toujours une espèce de coût de maintenance, mais c'est beaucoup moins, Bah, les euros, là, on n'en a plus besoin. Donc, on les enlève.
Est-ce que ça ne marcherait pas justement avec Bitcoin dans un monde où les unités sont fixes, les prix baissent continuellement, à un point où le coût de certains objets est tellement négligeable qu'ils sont donnés et que les
Oui, mais
seuls échanges monétaires se feraient sur les objets les plus chers du système, mais que les objets de base seraient gratuits?
le problème, c'est que celui qui a accumulé ses unités au bon moment, si on les détruit pas, il va toujours les avoir. Et donc, au niveau du réajustement du prix, il va avoir plus d'argent. Et donc, il va être plus riche que l'autre.
Ouais, mais il va être plus riche dans un système où les objets ont tendance à devenir gratuits. Donc le plus pauvre vit quasiment avec des objets qui coûtent quasiment rien. Et les plus riches utilisent leur argent pour créer des objets qui ont encore plus de valeur. Et à mesure qu'ils font ça, d'autres objets entrent dans la catégorie gratuit.
Oui, mais le riche sera toujours plus riche que celui qui ne l'est pas.
Oui, mais on aurait un système où on aurait une apparition d'abondance d'objets gratuits. Donc la richesse à ce moment-là serait peut-être pas aussi, ou plutôt l'écart de richesse ne serait pas aussi pénalisant. C'est-à-dire que la personne qui ne veut pas travailler justement aurait la possibilité de vivre quasiment gratuitement, et ceux qui veulent pour l'amour du sport s'enrichir et créer plus de choses pourraient le faire. Mais l'écart de richesse ne serait pas tant que ça discriminant pour la vie.
À voir, mais non, moi je pense que si tu permets l'accumulation, il y aura cette accumulation et que cette accumulation sera nécessairement asymétrique. Maintenant, effectivement, la question c'est de voir si dans la dynamique, est-ce que ce sera la même qu'on a aujourd'hui, c'est que donc le riche devient de plus en plus riche. Puisque il est au plus près, enfin dans le système actuel, il est au plus près de la création monétaire, donc c'est encore un autre problème. Mais non, moi, enfin voilà, c'est un peu l'idée. Dans le système actuel, on crée de l'argent sans limite et de manière incontrôlée. On a une autre machine qui crée de l'argent de manière contrôlée et qui émet une limite. Et moi, je pense à une machine qui crée et détruit de manière plus ou moins synchronisée pour ne pas avoir ce phénomène d'accumulation.
Mais est-ce que une machine qui créerait de manière, enfin qui créerait et détruirait de manière plus synchronisée empêcherait l'accumulation? Parce que
Oui, parce que si l'idée, c'est que si tu as cette unité et que tu ne la donnes pas à quelqu'un d'autre, eh ben, à un moment donné, elle disparaît et tu ne pourras plus la donner à quelqu'un d'autre. Donc, il y aura un time-out sur ton argent. Donc, l'argent sera fait pour circuler, mais c'est tout.
Mais s'il y a un timeout sur mon argent, à ce moment-là, peut-être que je vais accumuler des choses non monétaires en guise de réserve de valeur. C'est que la personne accumulerait, je ne sais pas moi, des pierres précieuses, en quelque sorte. Parce que la personne qui a du capital, à moins de vouloir volontairement le donner, parce elle va vouloir le conserver, donc trouver d'autres substituts, non?
C'est possible.
Fait que le phénomène d'accumulation ne serait pas empêché. Il serait détourné dans d'autres substituts.
En tout cas, le truc, c'est effectivement, ça n'empêchera pas d'accumuler d'autres choses, mais au niveau de la monnaie, la monnaie serait quelque chose qu'on ne peut pas accumuler.
Ah, ok. Ok, fait qu'on a... Ok. Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la peur avec le Bitcoin, et on le voit d'ailleurs. C'est aussi une question qui est pas beaucoup débattue. On est en train de, enfin, on a soit Satoshi s'est planté, soit on lui a fait un sale coup, mais le type il a inventé un système de cash. Et le Bitcoin aujourd'hui, c'est pas la comparaison la plus vraie du Bitcoin aujourd'hui, c'est pas du cash, c'est de l'or. La
Ouais.
Bitcoin aujourd'hui, ça sert de réserve de valeur et on fait pas des transactions avec des lingots d'or. Donc quelque part, je trouve que et pourquoi est-ce que c'est devenu de l'or? À cause de cette limite. Si tu as un système où il y a une destruction, ton argent, ce n'est pas de l'or, mais c'est du fer qui rouille, à ce moment-là, ça pourrait peut-être rester du cash. Mais là, c'est fini, le Bitcoin n'est pas du cash. Le titre exact, c'est Peer-to-Peer Electronic Cash System. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un Peer-to-Peer Electronic Gold System.
Ouais, mais est-ce que c'est pas le parcours normal que doit prendre le système avant de pouvoir donner du cash, c'est-à-dire qu'il faut qu'il devienne une réserve de valeur, qu'il soit adopté à l'échelle de la planète, pour qu'ensuite les gens commencent à échanger avec?
Je ne sais pas, c'est ce qu'on entend, mais à partir du moment où, en plus, encore une fois, il y a ce Bitcoin, tu peux le garder autant de temps que tu veux, d'après le design actuel. Donc, tu peux te passer à tes enfants, tes petits-enfants, 3 générations. Donc, ça va pas. Pour moi, le cap fait que ce sera considéré comme de l'or plutôt que du cash, et je pense pas que l'or va se transformer en cash parce que. Alors, c'est vrai que pour l'or, on a toujours cet espoir de trouver un nouveau filon et des choses comme ça qui n'existera pas pour le Bitcoin. Hein. On a les 21 millions et c'est la limite, pour autant que ce soit le protocole qui reste le leader des gens qui font le proof of work. Donc, je sais pas. Enfin, encore une fois, j'ai pas de réponse à tout ça, mais je trouve que le monde Bitcoin ouvre plein d'autres questions qu'on pourrait améliorer. Et alors, l'autre chose, c'est qu'on peut retomber aussi dans la partie technologique. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, faire un système comme le Bitcoin, mais avec cet aspect rouille, je ne sais pas comment on fait. C'est pas, c'est, je dirais, il faudrait à la Satoshi retrouver ce nouvel ingrédient auquel personne n'a encore jamais pensé pour le rajouter dans les 4 ingrédients que j'avais parlé précédemment qui font le Bitcoin, qui fait qu'on a cet aspect de rouille. Parce que tu peux pas mettre un time-out à un Bitcoin. En plus, au jour d'aujourd'hui, avec le système d'adresse, si mon Bitcoin rouille, bah, j'ai qu'à le changer d'un wallet à un autre, d'une adresse à une autre, et comme ça, je vais à chaque fois resetter son timeout et je vais pouvoir le garder. Donc, ça marche pas. Donc ça, le fait d'ajouter cet aspect rouille au Bitcoin, c'est aussi un défi. Donc même si c'est pas une bonne idée, etc. C'est un défi intellectuel et technologique qui est génial, je trouve. Tout comme l'était la double dépense, qui aujourd'hui a été solutionnée.
Mais je suis désolé de revenir avec ça, mais si la création-destruction ne permet pas d'empêcher l'accumulation, quel est l'intérêt d'avoir cet effet rouille? C'est pour juste qu'on n'accumule pas de monnaie?
Oui,
C'est
c'est
ça
pour ne pas
le...
avoir d'inégalité au niveau de la monnaie. Oh, si,
Mais
si, si.
attends, question. Si on a des inégalités ailleurs que dans la monnaie parce qu'on a stocké du capital sous d'autres formes, comme par exemple des lingots d'or ou des pierres précieuses, c'est comme si la personne qui avait ce capital sous d'autres formes a le pouvoir potentiel de la transformer en plus de monnaie que celui qui n'a pas ce capital. Donc, la personne a quand même plus de monnaie de toute façon.
Oui, mais pas celle. Si je devais, je dirais pas celle-là. Mais effectivement, tout ça est une dynamique, et le fait de créer une nouvelle monnaie ne va pas empêcher encore une autre de venir. Mais je trouve que ce serait, encore une fois, c'est simplement ce truc intéressant. Comment la société marcherait si on était payé que en chèque repas?
Probablement ce serait ben, comme je sais pas.
Voilà. Non, mais c'est bien ça, le truc, c'est qu'on ne sait pas. Mais ça se réfléchit, ça s'expérimente. L'argent n'est pas un tabou qui est comme ça et pas autrement. Non, ça s'expérimente.
Ouais. Puis en expérimentant, ben, les meilleures solutions remontent à la surface et permettent à l'humanité de d'avancer, on espère.
Oui, on espère, effectivement.
Merci beaucoup pour ce bel échange. Je ne sais pas si on peut s'arrêter là, ça fait 1 heure qu'on
Oui,
parle pote.
on peut. Il y a encore plein de choses, mais on peut faire ça à d'autres moments aussi. Mais c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal, merci.
Un grand merci.
Puis je garde ton contact, c'était vraiment intéressant de discuter avec toi, donc merci beaucoup, Patrick.